Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité speedy, c'est le maire de Nouméa, Sonia Lagarde. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il y a 10 mois, quasiment jour pour jour, la Nouvelle-Calédonie, et notamment Nouméa et les communes de l'agglo, étaient la cible d'émeutes destructrices. Les dégâts dans la ville ont été considérables. Alors, 10 mois après, Sonia Lagarde, quel est votre état d'esprit? Est-ce que vous êtes décidé à reconstruire ou est-ce que vous êtes un peu découragé et que vous avez envie de jeter l'éponge?
Je ne suis pas du genre à me décourager. Donc oui, je suis assez meurtrie quand même. J'avoue qu'il faut du temps pour encaisser tout ça. Mais l'espoir est toujours au bout. Moi, je ne suis pas du genre à baisser les bras. Et donc oui, il faut bien repartir et il faut recommencer. Et il faut reconstruire, évidemment.
Alors, le 13 mai a été un véritable traumatisme pour beaucoup de gens en Nouvelle-Calédonie, notamment pour Nouméa et pour son maire. Est-ce que depuis, vous avez pu analyser un peu ce qui s'est passé? Ça nous est tombé dessus. Est-ce que aujourd'hui, vous comprenez un petit peu quel a été le mécanisme qui a amené à un tel débordement de violence?
Alors, quand il y a eu les événements en 84, on s'est réveillé un matin, on s'est dit, ah, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Là, ça a été un coup de massue. Mais pas vraiment pour moi. Je sentais que la tension était palpable. Je l'avais dit autour de moi. Et quand c'est arrivé, j'ai pas été très très surprise. Alors, qu'est-ce que c'est qui a motivé tout ça? Alors d'abord, on a eu le slogan de tout ça a été non au dégel du corps électoral. Mais derrière tout ça, il y avait, moi je pense qu'on est plutôt, on a été dans une insurrection, on parle d'émeutes, et une insurrection qui amenait tous ceux qui avaient décidé de s'y engager vers une indépendance, bien plus qu'une espèce de prise du pays par la force, et en tout cas sur Nouméa. On met beaucoup de choses aujourd'hui sur le compte d'une jeunesse, d'une partie de la jeunesse qui ne s'est pas retrouvée et d'une révolte de la jeunesse. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les partis politiques, en tout cas indépendantistes, essaient de se sortir de ça. Moi, je ne suis pas, convaincue de ça. Je pense qu'on a formaté les esprits. Ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Je pense qu'il y a eu... Bien avant cette insurrection, il y a eu, on a formaté les esprits pour leur dire il faut y aller cette fois-ci.
Il y a une préparation, une organisation.
Je reste persuadé parce que aujourd'hui, quand on parle un peu avec les forces de l'ordre, il y avait une telle détermination et puis tout ça était très très bien organisé. On a beaucoup joué au chat et à la souris avec la police, donc ça veut dire que on savait ce qu'on faisait. Donc voilà, moi je reste persuadée et je pense qu'on ne peut pas tout mettre ça sur le dos d'une jeunesse qui ne se retrouve pas dans cette société dans laquelle on vit. Voilà, il y avait un fondement politique fort qui était à travers le dégel du corps électoral qui amenait justement à se dire on va tout prendre par la force et puis on sera indépendant.
Alors on sait qu'à Nouméa, des quartiers comme Ducos, Rivière-Salée, la vallée du Tir notamment, ont été complètement dévastés. Aujourd'hui, quel est le bilan globalement pour la ville de Nouméa? Est-ce que vous avez pu mesurer complètement ce que représentent ces dégâts, les conséquences que ça a?
Oui, alors en termes de dégâts, je peux dire, et avancer le chiffre, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est 6 milliards. On a eu 37 bâtiments municipaux qui ont été, pour un certain nombre d'entre eux, brûlés, voire totalement saccagés. À l'intérieur de ça, il y a quand même 4 écoles. On a eu des dégâts aussi en termes de voirie, très importants, puisqu'il y avait des barrages, on a fait des feux sur les routes, donc le goudron a fondu. Les caméras de vidéosurveillance qui ont été détruites, 57 au total. Donc on a mis une ville, en particulier dans les quartiers nord, à feu et à sang. Et tout est parti en fumée.
Et alors, parallèlement où? En conséquence, on le sait que ces émeutes ont provoqué un effondrement de l'économie calédonienne avec des conséquences notamment pour les collectivités, mais aussi pour les entreprises privées, mais pour les collectivités. Quelles sont les conséquences financières pour la ville de Nouméa, puisque vous venez récemment de faire votre débat d'orientation budgétaire?
Alors, je voudrais revenir sur la première question, parce que celle de la précédente, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est quand même un anéantissement de 40 ans de progrès, 40 ans de paix, et 40 ans aussi où des entreprises, en particulier sur du COS, qui ont extrêmement, extrêmement souffert. Donc, 40 ans, c'est énorme. Et donc, ce n'est pas sans poser problème à la ville, et en particulier sur du COS. Alors, pour en revenir à la question précisément concernant les finances, alors, sur les émeutes et dans le débat d'orientation budgétaire, je l'avais dit, on a réussi à récupérer, avec un travail acharné qui a été fait par quatre personnes que j'ai mis à plein temps pendant des mois avec l'assureur, où tout a été scruté au point et à la virgule. On a eu un expert auprès de l'assureur qui est venu au mois de juillet, mais il ne pouvait pas aller sur tous les sites. Il est revenu en octobre. Et finalement, on s'est extrêmement bien débrouillé, puisqu'on a réussi à obtenir le plafond de ce qui avait été négocié avec l'assureur, qui était un assureur suisse, à hauteur de 5 milliards.
Parce que vous savez que la plupart, notamment des chefs d'entreprise, oui, se plaignent des lenteurs des assurances. Pour la ville de Nouméa, ça marchait.
Ben écoutez, on a été, je ne dirais pas qu'on a été un exemple, mais en tout cas, on avait bien négocié dès le départ. On n'avait pas négocié les émeutes, mais l'incendie, et c'est ce qui nous a servi. Et le fait qu'on puisse toucher ces 5 milliards à la fin de l'année, presque à Noël, c'est parce qu'il y a eu tout ce travail de nos services avec l'assureur et la venue par deux fois de cet expert. Donc on a eu 5 milliards sur les 6 milliards de travaux. Quand vous me parlez du débat d'orientation budgétaire qu'on a eu avant-hier, on a réussi pour l'année 2025 à avoir un budget en équilibre grâce à ces 5 milliards. Donc c'est une opération budgétaire. Et donc, voilà, s'il n'y avait pas eu ces 5 milliards, mais qu'on n'aura sans doute pas l'année prochaine, donc ce sera une autre année et on verra ce qui va se passer là en 2025.
Et pour rester sur les assurances, puisqu'on sait que tous les renouvellements de contrats ont été faits sans garantie émeute, sans garantie guerre civile, la ville de Nouméa, elle a encore une protection s'il doit se passer d'autres choses?
Alors depuis le 1er janvier, nous ne sommes plus assurés. Et donc, on voit bien la difficulté qui se pose aujourd'hui, pas seulement pour la ville de Nouméa, mais pour tout le monde, par rapport à cette insurrection, et qu'on voit bien la frilosité aujourd'hui des assureurs, ce qui rend la chose très complexe. Donc, évidemment, il y a une augmentation très forte des coûts. L'assureur que nous avions, lui, nous a dit, ben, c'est bon, on a connu la Calédonie, donc vous êtes bien gentil là-bas, mais c'est fini. Donc, on continue à chercher. Là, on a quelques touches sérieuses, mais on verra une augmentation drastique pour celle qui nous est proposée là aujourd'hui. Ben, je vais vous donner les chiffres, hein, faut être transparent. Ça nous coûtait 90 millions par an. Aujourd'hui, on a une proposition qui est à presque 150 millions. Donc, vous voyez que ce n'est pas toujours évident. Et si la commune de Nouméa va franchir le cap, parce que je ne vois pas comment on peut faire pour être notre propre assureur, ce qui est le cas d'un certain nombre de communes, c'est difficile, et pas seulement pour les communes, mais pour les particuliers, c'est aussi très, très difficile.
Alors vous dites que vous êtes arrivé à un équilibre grâce notamment à ces 5 milliards. Mais il y a quelques mois, on s'en souvient, vous étiez... La ville pouvait être en cessation de paiement, vous ne saviez pas comment payer vos agents. Ça veut dire que tout ça, maintenant, aujourd'hui, c'est réglé, ça va mieux, que vous avez un peu de visibilité sur l'année 2025?
Alors, on a réussi une prouesse parce que les finances de la ville étaient saines, mais on avait aussi un emprunt dans notre budget 2024. On avait 2 milliards auprès de l'AFD. On a tiré une ligne de trésorerie auprès d'une banque locale pour 1 milliard. Les dotations de l'État à travers la DGF ont continué. L'État a fait aussi un effort pour nous donner 4 mois en un seul mois. Donc, on a pu voir venir à la fin de l'année. Et puis, on a quand même touché le FIP de la Nouvelle-Calédonie avec une baisse qui était de 25%. Donc, là, je voudrais rappeler une chose concernant le FIP, parce qu'on parle beaucoup des communes et du financement. Et on est dans les budgets.
Donc, le FIP qui est le Fonds intercommunal de péréquation.
Et on a enregistré une baisse de 25%. La situation, dans une situation normale, on a un budget de répartition qui passe au Congrès Et donc, dans ce budget de répartition, on a une assiette. Et cette assiette, sur une année normale, la base est de 110 milliards. 110 milliards, ça veut dire que dans le budget de réversion, de répartition, on donne aux communes et on donne aussi aux provinces. Et sur une année normale à 110 milliards, la commune de Nouméa perçoit 4,8 milliards par an de FIP. Ça veut dire 400 millions par mois. Avec la baisse drastique que nous avons subie l'année dernière, eh bien, on est descendu à 100 millions. On a eu une baisse de 100 millions, ce qui fait qu'on avait 300 millions par mois. Donc 100 millions par mois, c'est énorme. 1,2 milliard à la fin de l'année. Donc, on avait des difficultés quand même à s'en sortir. On avait les factures qu'on accumulait parce que les travaux continuaient à se faire quand même. Et à la fin de l'année, on avait 2,6 milliards de factures qu'on était dans l'impossibilité de payer aux entreprises. Et moi, j'étais miné par ça parce que je me disais, mais on est en train de tirer les entreprises vers le bas. Et donc, grâce à des efforts drastiques, on a réussi à payer nos personnels. Je rappelle quand même que la commune, c'était 1 600 agents. Et moi, j'avais dit souvent, et je vais rendre les clés du camion. Je vais aller voir le haut-commissaire, je vais lui dire, monsieur le haut-commissaire, voilà, vous allez gérer désormais la commune. Tant bien que mal, avec des économies qu'on a pu faire aussi sur notre masse salariale, on a réussi quand même à payer tout le monde. Et quand la Nouvelle-Calédonie perçoit de l'argent de l'État à la fin de l'année, 5 milliards, ça veut dire que ces 5 milliards... Le financement d'une commune comme la commune de Nouméa, on a à la fois du FIP, 4,8 milliards, on a 5,1 milliards de centimes additionnels. Et ça, on n'en parle jamais. Les communes sont polarisées sur le FIP. Mais il faut dire que certaines communes touchent des centimes additionnels. Donc c'est les droits d'enregistrement, c'est l'IRVM, c'est les patentes, etc.
Et là, ils ont été à la baisse également en 2024.
Ben non, ils n'ont pas été à la baisse, c'est qu'on n'a rien touché du tout. La Nouvelle-Calédonie a été, toute l'année 2024, dans l'impossibilité de nous verser ces centimes additionnels. Et donc, on s'est retrouvé à la fin de l'année avec un gap de 5 milliards, puisqu'on ne les avait pas perçus. Quand l'État a envoyé de l'argent à la Nouvelle-Calédonie avec un fléchage en disant « c'est pour les communes », on a pu rattraper tous ces centimes additionnels, 5 milliards nous a été versés à la fin de l'année. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, moi j'ai jugé utile, important, de payer toutes les dettes qu'on avait. On a payé les 2,6 milliards aux entreprises qu'on devait. On a remboursé notre ligne de trésorerie à la banque, qui était d'un milliard, plus les intérêts, bien évidemment. D'ailleurs, je me dis que j'ai vu le président du gouvernement et je lui ai dit que j'allais lui envoyer un peu la facture des intérêts qu'on a payés. C'était quand même 29 millions. Enfin, voilà. Donc, il ne faut pas oublier, quand on parle du financement des communes, et en particulier les communes de l'agglo, il ne faut surtout pas oublier les centimes additionnels qui représentent beaucoup plus que le FIP. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a pu s'en sortir.
Et alors maintenant, pour 2025, puisque vous avez eu votre débat d'orientation, vous allez devoir diminuer vos dépenses de fonctionnement, on l'imagine. Quels sont les choix que vous avez faits? Est-ce que c'est diminution du personnel? Est-ce que ce sont des efforts par ailleurs? Qu'est-ce qui a été prévu?
Alors, dans une restriction de la masse salariale, on a déjà commencé en 2018. On n'a pas attendu, parce que plus ça va et plus on a des baisses, évidemment, de rentrées, de recettes. Donc, pour pouvoir investir dans la ville et faire des travaux, il faut trouver, diminuer les dépenses en fonctionnement. Donc, les dépenses en fonctionnement, depuis 2018, on demande chaque année aux services, vous baissez de 2%, vous baissez de 2%, vous baissez de 2%. Et puis, on a la masse salariale. Donc, on a déjà commencé à restreindre cette masse salariale depuis 2018. On en est aujourd'hui à avoir une baisse, au moment où je vous parle, et c'était dans le budget d'orientation, eh bien, de 11%. On s'est séparé de 136 agents. Alors, tout ça, c'est lié à la fois au départ à la retraite qu'on n'a pas remplacé.
Des non-renouvellements.
De gens qui sont partis, il y a eu des départs volontaires. Des fins de CDD qu'on n'a pas renouvelées. Et donc, on était déjà engagé là-dedans pour faire des économies.
Mais est-ce que ça ne diminue pas naturellement les services que la ville peut apporter aux administrés si vous avez du personnel en moins?
Non, alors moi, je prends une devise, on va faire mieux avec moins. C'est jamais de gaieté de cœur qu'on fait ça, bien évidemment. Mais on a réorganisé nos services tout au long de l'année aussi, et ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà engagé en 2023, ce qui pourrait avoir des services plus rationnels. Donc, on a absolument tout réorganisé, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec un peu moins d'agents, on arrive à assumer complètement ce qu'on doit faire, c'est-à-dire être au service des administrés.
Et du côté des investissements, qu'est-ce qui va être possible en 2025? On sait qu'il y a, beaucoup de travaux dans la ville, il y en a eu beaucoup depuis que vous êtes maire. Est-ce que vous allez continuer? Il y a deux aspects, il y a l'investissement, les nouveautés, et puis il y a la reconstruction obligatoire.
Voilà. Alors si on commence par la reconstruction, donc je vous ai dit qu'on avait 5 milliards. On a dans ce programme cette année, on va injecter 2,1 milliards. Voilà. Donc on a déjà les voiries endommagées, on en a pour 1,4 milliard. On a le réseau d'éclairage public dont beaucoup de lampadaires ont été mis à terre, il y en a pour 232 millions. Il y a la vidéoprotection qu'il faut refaire. Il y a les véhicules et les engins, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, on a eu plus de 100 véhicules qui ont été brûlés, et des véhicules des services. Donc il faut remplacer le mur d'escalade qu'on va reconstruire, la direction des services sanitaires, qui est un service essentiel dans la ville, qui lui a complètement brûlé à Moravel. Et puis on va faire des études bâtimentaires. Ça, j'insiste sur ce point, parce que quand vous avez des bâtiments qui ont été à moitié brûlés, où on peut dire, l'expert dit, mais là vous pouvez reconstruire. On ne peut pas reconstruire si on ne fait pas des études sur les murs qui ont été endommagés, noircis, est-ce qu'on peut construire à côté. Donc ça demande des études, et surtout des études de ciment, pour voir comment ça peut tenir le coup, si jamais on démolit pas. Et donc, voilà, donc on a mis des sommes, 25 millions à peu près, pour faire toutes ces études. Donc voilà, on est engagé à reconstruire ça. On ne reconstruit pas tout. On ne reconstruira pas les écoles. Ça, il faut le dire aussi.
Parce qu'il y a une baisse d'effectifs et que ce n'est pas indispensable de reconstruire les écoles qui ont été détruites.
Non, mais parce qu'on a une déperdition d'élèves aussi. Et ça a commencé déjà depuis plusieurs années. On ferme une école tous les 2 ans à peu près. Donc on avait des écoles de libre, c'est la raison pour laquelle on a pu loger le lycée Escoffier, une partie du collège de Rivière-Salée, dans des écoles de Rivière-Salée qui avaient fermé. Donc on a réussi à faire à cette rentrée, rentrer tous les gamins, en sachant qu'on en avait 991, pour ne pas dire 1000, qu'on n'a pas vu au début de l'année. Donc, aller reconstruire des écoles, c'est ce que j'ai dit à l'État. Aller reconstruire des écoles alors qu'on sait qu'on a des classes vides et des écoles qui ferment. Donc, ça s'est très, très bien passé. On a pu reloger dans les secteurs nord en particulier. Donc, on ne voit pas pourquoi on va reconstruire des écoles. Et l'État a très bien compris ça. Voilà.
Alors, on sait que c'est surtout les quartiers nord de la ville, hein, qui vont passer. Oui. Les quartiers nord de la ville qui ont été la cible des émeutes. Est-ce que ça remet en cause le développement de ces quartiers, la construction d'équipements dans ces quartiers? Puisque c'est là où tout a été détruit, est-ce que vous allez refaire les médiathèques? Bon, le mur d'escalade à Magenta va être fait, mais notamment toutes les médiathèques qui ont été détruites, est-ce que vous allez investir dedans?
Alors, sur les deux médiathèques, une qui a brûlé à Rivière-Salée et l'autre à Caméré, on se pose la question aujourd'hui. Dans la ville de Nouméa, on a la bibliothèque Bernheim qui continue, qui n'est pas la bibliothèque de la ville, mais qui appartient à la Nouvelle-Calédonie. Là, on est en train de voir avec eux si on pourrait pas... eux, ils ont un manque de personnel évident, ils ont plus l'argent, et donc nous non plus, mais on a du personnel. Donc est-ce qu'on peut faire une joint venture pour essayer de faire en sorte qu'on ne fasse qu'une seule et même bibliothèque au sein de la ville, intramuros? On est en train de regarder ça. Sur le pôle de service de Rivière-Salée, qui était un service essentiel dans lequel on avait la maison de la famille, on a la maison de quartier qui a brûlé. Alors, est-ce qu'on peut essayer de travailler intelligemment pour exercer une polyvalence dans ce bâtiment, où on est obligé de faire des études pour voir si on peut le rénover? Et donc, ça me semble aujourd'hui important. D'abord, il faut changer le logiciel. Il faut essayer de se reconstruire, peut-être pas de la même manière. Il faut regrouper sans doute des services, mais ces quartiers ne seront pas abandonnés, bien sûr.
Parce que justement, on a beaucoup dit que l'une des causes des émeutes, on y faisait allusion tout à l'heure, c'était qu'on avait laissé un peu à l'abandon des populations défavorisées dont on ne s'était pas assez occupé. À Nouméa, quelle réflexion ça vous inspire, puisque vous aviez fait des choses dans les quartiers nord, justement?
Mais oui, on a notre service de politique de la ville. On était très présents sur les politiques publiques, à travers nos maisons de quartier, nos animations. Donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que je ne crois pas à ça. Ça me semble être un prétexte. Alors on peut sans doute faire mieux. Moi, je veux bien accepter toutes les critiques. Mais de là à dire qu'on n'a rien fait, ça, je ne peux pas l'accepter.
Alors, ça, c'était pour la reconstruction. Il y a également de la poursuite des investissements que vous aviez commencé, la poursuite des travaux. Oui. Ça va se continuer en 2025.
Alors, bien sûr. Alors, il a fallu faire un exercice de priorité. Donc, la poursuite du bâtiment des archives dans la ville, celui-là. Voilà, il y a le terrain de la polyclinique aussi. Qui se termine, il y a la jeune Seine qu'il faut réhabiliter, il y a la rue Jaurès où il y a des gros travaux d'assainissement en ce moment, ça pourrit un peu le commerce, mais il fallait y aller, on avait fait toute la rue de l'Alma et donc il fallait faire le pendant, parce que quand on a des pluies diluviennes ou des pluies centenaires, ça rentre dans les magasins, donc il fallait s'en préoccuper, donc il faut le faire. Il y a la route du Port des Pointes aussi qu'il faut continuer, la troisième phase, qui sera bientôt finie. Il y a la piste cyclable du Faubourg Blanchot, voilà, qui va repartir. Il faut continuer la poursuite des trottoirs. Et la place Bir Hakeim aussi, qui va être rénovée. Et il y avait des travaux à faire parce qu'on avait du dallage qui ne tenait plus. Il y avait des infiltrations d'eau, etc. Donc, on est en train de refaire cette place Bir Hakeim. Voilà, donc, on poursuit ces chantiers qui avaient déjà commencé.
Et vous avez les moyens, là. Vous avez les moyens de les poursuivre.
Alors, ben voilà, on a les moyens. Alors, on a, en termes d'investissement, hors programme de reconstruction, on a cette année 1,2 milliard ou 1,5 milliard de poursuites de travaux. Dans un temps normal à la mairie de Nouméa, on était à 5,2 milliards d'investissements par an. Et là, on dégringole à 1,5 milliard. Voilà. On est dans une gestion extrêmement prudentielle parce qu'au moment où je vous parle, nous n'avons aucune vue, aucune perspective sur les centimes additionnels. Le FIP, on continue à nous le verser de la même manière qu'on nous l'a versé l'année dernière, c'est-à-dire 300 millions et rien de plus. Donc là, vous savez qu'il y a des discussions qui sont engagées avec l'État concernant le FIP.
Et donc, Emmanuel Valls l'a annoncé lors de son dernier passage.
Aujourd'hui, moi, je n'ai aucune assurance. Il y a des chiffres là. Le Congrès était en débat d'orientation budgétaire ce matin. On évoque 101 milliards de l'assiette de répartition. Aujourd'hui, on est à 81 milliards, donc le gap devait être assuré par l'État. Mais aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'assurance, les maires non plus, qu'on va progresser à 101 milliards. Ça reste à définir avec l'État, et ça, c'est le gouvernement qui discute. Donc j'espère qu'on y arrivera, parce que ça mettra un peu de beurre dans les épinards.
Alors, autre domaine d'inquiétude, après ces violences de mai l'année dernière, on sent ces derniers temps un regain de la délinquance avec... plusieurs incidents, il y a encore des incendies qui sont signalés ici ou là. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez? Il y a effectivement les braises couvent encore. Est-ce qu'il y a un regain de la délinquance ces derniers temps? Et est-ce que vous avez les moyens, vous, avec les forces de l'État, bien sûr, d'y faire face aujourd'hui à Nouméa?
Oui, alors pas plus tard qu'hier, j'ai vu le haut commissaire, la directrice de la police nationale. Alors vous avez raison. Moi, je suis inquiète de ce qui se passe dans la ville. Je ne vais pas rajouter de l'anxiété à celle qui est déjà existante. Mais le fait est là et il ne faut pas nier les événements. On a des bandes qui traînent dans la ville de plus en plus, mais on a surtout de plus en plus de SDF. Ça, on l'a constaté. Moi, j'avais fait une étude avec les Maraudes et mon CCAS en 2020. On avait en file active 600 SDF dans la ville. Aujourd'hui, je pense qu'on a atteint le millier. Depuis les événements, il y a des gens qui sont restés dans la ville et qui, on est tous les jours à faire face à une mendicité agressive que je déplore. Et le constat qu'on peut faire là-dessus, d'abord, ils sont tous dans des conditions très addictives où on mendie pour aller acheter un pot-père de vin, voire, puisqu'on n'a pas assez, de l'alcool à brûler. Hein. Donc ça, c'est quand même pas génial. Et donc, voilà, j'ai vu que la police, hier, et en concert avec elle, il y a eu une vaste opération qui a été faite sur Chinatown, qui sont des points de deal connus. Ces opérations vont perdurer. Sauf que sur les SDF, on manque d'outils. Donc là, moi, j'ai demandé au commissaire et à la directrice de la police nationale, on va organiser une réunion parce qu'il y a des responsabilités qui sont multiples. Qu'est-ce qu'on fait de ces SDF? Comment fait-on pour essayer de les réinsérer? Les ramener en tribu, souvent, c'est difficile parce que dans les tribus, on n'en veut plus. Et donc, c'est des gens qui errent dans la ville et qui sont de plus en plus agressifs. Voilà. Et qui, pour certains, peuvent être dangereux. Donc, voilà, c'est un vrai, vrai souci. Il est devant nous. Il faut qu'on arrive à le résoudre. Et en particulier, sans doute, avec l'Agence sanitaire et sociale, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire tous ceux qui ont des compétences en matière de santé publique. Et donc, il faut mettre tout le monde autour de la table. Il ne s'agit pas de faire de la réunionnite. On n'en est plus là, mais il s'agit... Voilà, on peut se réunir, mais il va bien falloir des actes.
Pour essayer de trouver des solutions. Voilà. Je voulais également vous entendre sur les discussions qui viennent de s'engager sur l'avenir institutionnel autour de Manuel Valls. Il doit revenir à la fin du mois. Qu'est-ce que vous attendez de ces discussions? Vous êtes de ceux qui pensaient qu'il faut un accord, de toute façon, c'est indispensable aujourd'hui?
Ah ben, il faut un accord, évidemment. Il faut un accord institutionnel, parce que un accord institutionnel amènera... à une stabilité économique. Donc, bien sûr qu'il faudra en passer par là, et puis on ne peut pas se revoir tous les 20 ans pour dire qu'est-ce qu'on fait. Donc, oui, il le faut, mais ce sera compliqué, ce sera long et difficile. Je pensais, j'ai entendu des gens qui pensaient que tout allait se régler en un coup de cuillère à peau en 3 jours. On part de tellement loin des deux bords que comment voulez-vous qu'on arrive à trouver le chemin médian qui amène... à une solution. Donc, et d'ailleurs, le ministre s'est exprimé récemment sur une radio métropolitaine et il disait ben, ça va être compliqué, puis ça va être long surtout. Voilà.
Qu'est-ce que vous pensez du document qu'il a publié à l'issue de son séjour? C'est une base de négociation, à votre avis? À quoi ça peut servir?
Non, d'abord, ce qu'on lui doit quand même, c'est d'avoir réussi un tour de force alors que personne ne voulait se parler et d'avoir mis les gens autour de la table. Ça, quand même, ça reste à saluer, et je crois que ça a été salué par la classe politique entière et des deux bords. Après, sur ce document, moi, j'ai considéré, après l'avoir lu plusieurs fois, que c'était comme un devoir. Ça veut dire qu'on a mis des choses qui fâchent, des choses qui amènent à réfléchir, la loi fondamentale, etc., etc. Et donc, je pense que dans les discussions qu'il y a eues, il a essayé de pousser les élus dans leur dernier retranchement, c'est-à-dire il faut exorciser un peu tout ce dont on n'a pas véritablement, ou vous n'avez pas véritablement parlé entre vous. Alors on y va maintenant, voilà, on est dans cette séquence. Je pense que c'est le pari qu'il a pris d'essayer de pousser jusqu'au bout les uns et les autres sur les différents scénarios qui pourraient survenir. Je pense que c'est un devoir. Je ne pense pas que ça aille plus loin que ça.
Ils vont rendre leur copie.
Peut-être. Peut-être qu'ils ne les rendront pas par écrit, mais en tout cas, ils pourront en faire part au ministre quand il reviendra. J'espère que tout ira bien.
Parce qu'on avait parlé d'un accord au 31 mars.
Non, c'est impossible. Arrêter de donner des dates. Parce que vous savez, en Calédonie, on a toujours donné des dates comme ça. On s'est toujours fixé des objectifs en disant à telle date, il faut que ce soit fini. Ça ne fonctionne pas comme ça. La notion du temps, elle n'est pas du tout la même pour vous que pour un indépendantiste, pour un mélanésien. Ce n'est pas pareil. Nous, on a la montre, on est pressé, mais eux, ils ont le temps. Donc voilà, il faut... tenir compte de tout ça, et ce qui n'est pas toujours évident. Mais en tout cas, le temps presse. Alors ça va nous amener aux élections provinciales, bien sûr. Alors la question qui sous-tend les élections provinciales, quand est-ce qu'elles vont se faire? Si toutefois il y avait l'ébauche d'un accord et qu'on signe en bas, on dit, ça est très clair, ça peut être poussé en 2026, de 6 mois. Si ce n'est pas le cas, ça doit se faire peut-être en novembre 2025. La question qui sous-tend et qui est essentielle, c'est quoi? C'est avec quel corps électoral? Quand on voit ce qui s'est passé par rapport au dégel, non au dégel et ce qu'il y a eu, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors je pense que la solution, enfin, j'imagine que les indépendantistes pourraient accepter, bien évidemment, l'inscription des natifs. Après, pour tous ceux qui ne sont pas natifs, combien de temps? 10 ans, 15 ans? Voilà, tout le monde a sa formule. Ce sont les élus qui sont autour de la table qui vont en décider.
Justement, est-ce que vous trouvez que les maires sont associés suffisamment?
Ah ben non.
On sait que c'est l'une des revendications régulières des maires de Calédonie. Vous avez été reçu par... Il y a eu un déjeuner avec l'ensemble des maires et vous y étiez.
Oui.
Ils vous invitaient également à la réunion de méthode au
oui.
Congrès. Ça ne suffit pas? Vous voudriez être davantage associé?
Ben, écoutez, on ne peut pas en permanence dire que les maires sont des acteurs de proximité, et en particulier les quatre maires de l'agglo qui ont énormément souffert et qui concentrent 75% de la population. Donc à un moment donné, on se pose la question de dire, mais est-ce qu'ils doivent être là autour de la table? Ça me semble tellement évident. Mais pas que les maires d'ailleurs, aussi la société civile. Alors il ne faut pas que ça devienne café du commerce, mais je pense que le monde de l'entreprise, le monde économique a aussi peut déléguer des gens et il faut rassembler. Et puis si jamais on trouvait un accord, alors il faudra rassembler le plus grand nombre, y compris les maires, mais aussi le monde économique et une partie de la société civile dont elle fait partie, eh bien, à vendre cet accord. Plus on sera nombreux, et mieux ce sera. Moi, ce que j'ai dit, quand j'étais invité là pour la méthode, j'ai dit, ne recommençons pas les erreurs du passé. C'était quoi? L'accord de Nouméa, c'est anecdotique, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. L'accord de Nouméa, quand il a été signé, personne ne l'avait lu, ou presque. On a dit quoi? On a dit, c'est un accord de paix, c'était bien. Le contenu, ça je parle des loyalistes, le contenu, on n'en a pas tenu compte, on n'a pas expliqué. Et puis on a dit, c'est un accord de paix, c'est ça, faut le voter ou c'est le chaos. Moi je regrette ça, parce qu'aujourd'hui, mais pas qu'aujourd'hui, hier, il y a des tas de gens qui ont découvert ce qu'il y avait dans l'accord de Nouméa. Et beaucoup s'accordent à dire aujourd'hui que c'était un mauvais accord. Une
vous
frange de la population.
Que, parce que vous y étiez opposé à l'époque.
Mais oui, mais j'assume complètement. J'assume complètement. Et pourquoi je m'étais opposé à ça? C'est parce qu'il y avait déjà une restriction du corps électoral. Il y avait déjà 10 ans, c'était 10 ans
c'était
glissant.
10 ans glissant.
Et puis, pour les référendums de sortie de l'accord, il fallait 20 ans, il fallait être là en 94. D'autre part, il y avait tous les transferts de compétences dont on ne savait pas que l'État, au moment où ça s'est voté, est-ce que l'État allait assumer le financement des transferts? Voilà. Autant de questions qui étaient autant d'interrogations. C'était extrêmement difficile de prendre cette position parce qu'en général, quand il y a un accord de paix, ben, on essaie de le vendre. Voilà.
Et qu'à l'époque, on était un peu comme dans la situation d'aujourd'hui, même pire, parce que
oui.
on tombait dans le vide. Il y avait un vide juridique après les accords de Matignon et que tout le monde disait qu'il faut un accord, un peu comme on le dit aujourd'hui. Quoi.
Voilà. Mais vous savez, quand j'ai dit ça, quand le Premier ministre sous Hollande, alors que j'étais député, était venu ici, qui s'appelait Jean-Marc Ayrault, et qu'il y avait eu cette grande réunion au Saria, il y avait Victorin Lurel qui était ministre de l'Outre-mer, le micro a tourné. Et moi, quand ce micro est arrivé à moi, j'avais Ayrault qui était assis à côté de moi, et je lui dis, mais monsieur le Premier ministre, est-ce que vous savez que la plupart des gens n'ont pas lu l'accord de Nouméa? Et qu'est-ce qu'il me répond? Ah ben non, mais ça, je ne peux pas l'entendre. Mais j'ai dit, mais si, il faut que vous l'entendiez. Et donc, vous voyez, c'était 2013. Et Paul Néaoutine, qui était assis en face, a dit, mais je suis complètement d'accord avec elle. Quand on a signé l'accord, qu'on s'est serré la main, on s'est dit, ensemble, on va aller vendre ce qu'on vient de signer. Alors, Néaoutine a rajouté en disant, mais nous, on a fait toutes les tribus, tous les villages, et on a été expliquer ce qu'on avait signé. De l'autre côté, il ne s'est rien passé. Il y avait un slogan, accord de paix, votez pour.
On l'a un peu décliné dans les médias quand même, on l'avait un peu expliqué quand même.
Hein. Peut-être vous, mais en tout cas vous n'êtes pas allé au fond du sujet parce qu'il y a des tas de gens qui ont découvert ce qu'était l'accord et en particulier sur le gel du corps électoral.
Qui n'était pas gelé quand ils ont signé l'accord.
Ouais, qui était glissant.
Pour conclure, Sonia Lagarde.
Donc il ne faut pas refaire les mêmes erreurs. Et donc plus vous associerez de gens, eh bien plus ce sera facile.
Mais il faut déjà trouver l'accord.
Et puis il faudra bien expliquer.
Voilà. Comment est-ce que vous voyez cette année 2025? Je ne vous demande pas de faire de la prédiction dans une
non,
boule de cristal.
Non, parce que je ne
mais...
suis pas Madame Irma, je ne lis pas dans le marc de café.
Vous
moi, j'espère que
la Calédonie va arriver à se redresser, elle va redevenir attractive. Il y a la volonté, il y a le ressort aujourd'hui pour redresser la barre.
Ben, il y a la volonté qui est là, mais j'écoute votre radio et le jeudi de l'économie hier avec l'étude Quid Novi m'a laissé un peu un goût d'amertume parce que. Quand on voit qu'il n'y aurait que 15% des entrepreneurs qui seraient décidés à reconstruire, j'ai de la peine. Mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut absolument trouver quelque chose de stable institutionnellement pour que la machine économique se relance. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Moi, ça me rend triste parce que, vous savez, vendre l'indépendance, on n'empêchera sans doute jamais un Kanak de vouloir son indépendance. Mais on a vendu du rêve. Et ce rêve, aujourd'hui, il ne s'est pas concrétisé. Mais il faut faire attention quand on vend du rêve. Parce que on sait pas, on sait ce qu'on a aujourd'hui, on sait qui nous soutient, on ne sait pas qui nous soutiendra demain. Et donc, la paupérisation des populations, c'est voilà ce que ça amènerait, l'indépendance. Et aujourd'hui, on est dans un tel marasme, avec beaucoup de gens au chômage, avec une économie qui est chancelante, et où les ventres sont vides, alors il faut faire attention. Voilà. Donc, tout ça, ça doit être propice à la réflexion, à la discussion, et essayer pour 2025 d'arriver à trouver un accord pour que cette Nouvelle-Calédonie, où on est voué à tous habiter ensemble et vivre ensemble, eh bien ça se concrétise parce que moi j'y vois rien de bon si on sortait quelque part et qu'on aille vers cette idée d'indépendance qui amènera que la pauvreté. Mais j'ai pas envie de voir ça.
Merci Sonia Garde, la fin de ce magazine Transparence.